Il y a 15 jours, j'étais parti en Italie pour suivre une semaine de séminaire. Alors, c'est où? C'est pas forcément à Milan. J'avais dit à Milan à beaucoup d'entre vous, mais c'était pas vraiment à Milan, c'était à Stresa. Je sais pas si vous connaissez cet endroit. Ça ressemble un petit peu à Nice, mais plus joli. J'ai vraiment aimé cet endroit. Sauf que, ben, pendant toute la journée, je devais rester cloîtré. Du matin jusqu'au soir, donc on avait 8 séances, donc c'est pas 8 heures, c'est plus que 8 heures. La journée commençait à 6 heures du matin et la journée finissait au matin à 1 heure du matin. Donc c'était une semaine super chargée, fatigante, mais très ressourçante. Alors le thème, enfin bien sûr, entre-temps on avait 3 heures de temps libre où on pouvait visiter un petit peu la ville et l'île qui était juste à côté de Stresa. C'était vraiment agréable. Et le thème de cet séminaire était sur revivre, revival, revivre. Comment nous pouvons être restaurés, renouvelés par le Seigneur. C'était ça en fait le thème. Et ça m'a beaucoup touché parce que ce thème m'a beaucoup parlé, franchement. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous partager sur ce thème-là. Et donc, j'aimerais vous partager à partir de Ézéchiel, chapitre 37, où nous connaissons bien cette histoire, où Ézéchiel est conduit, transporté par le Seigneur pour découvrir un tas d'ossements desséchés. Hein? Donc c'est cette histoire assez connue. Donc c'est une vision extraordinaire que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel. C'est une vision plutôt en vue de restaurer, en vue de ressusciter. Dans le cœur d'Ézéchiel, mais aussi dans le cœur des Israélites. Alors, Ézéchiel, c'est quelqu'un qui est né un peu plus de 600 ans avant Jésus-Christ, et il a commencé à prophétiser lorsqu'il a été exilé après la fin de l'Israël et du royaume de Juda, donc aux alentours de 586 avant Jésus-Christ. Donc Ézéchiel est exilé, déporté par la puissance babylonienne, puisque l'Israël était complètement anéanti par cette grande force. Et puis il est transporté dans une vallée de cimetière où il y avait des ossements desséchés. J'aimerais vous lire le premier verset. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Donc je disais qu'à l'époque d'Ézéchiel, Israël se trouvait dans une situation désespérée. Le peuple était en exil, la nation était détruite. Et Ézéchiel se sentait sans espoir, comme des morts. Si on regarde pourquoi ils ont été exilés, alors que c'est un peuple qui vénère Dieu, en fait, à l'époque, non, ils ne vénèrent pas Dieu. Ils ne vénéraient pas Dieu, ils étaient devenus idolâtres, ils étaient devenus rebelles à Dieu, et ils servaient d'autres dieux. Et la conséquence de leurs actes était, bien sûr, le Seigneur aussi qui juge le péché, et il a envoyé la puissance babylonienne pour détruire, conquérir l'Israël et aussi, l'Israël, toute l'Israël. Et là, donc, il est sous l'esclavage babylonien et il rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui montre des ossements desséchés, qui symbolisent en fait, symbolisent quoi? Cette situation désespérée de l'Israël. Ça met en évidence le besoin urgent de restauration et de renouvellement spirituel pour le peuple d'Israël. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous sentez-vous également aussi comme ces ossements desséchés, complètement secs, sans espoir? Peut-être vous êtes en ce moment loin du Seigneur. Je ne sais pas. Ou peut-être avez-vous déjà expérimenté dans votre passé ce genre de période de sécheresse, de désolation ou de presque de mort. En tout cas, moi, j'ai connu ce genre de période. J'ai connu des périodes de désert où ma vie était une sécheresse spirituelle, où je me sentais intérieurement complètement déprimé, voire presque en dépression. Je pense que vous avez dû expérimenter cela aussi. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce séminaire, il y a un pasteur qui disait, tu sais, ce désert peut aussi venir dans la monotonie du train-train quotidien. C'est-à-dire où l'on s'habitue à être proche, enfin, où on est habitué à avoir une vie spirituelle qui semble être familière. Et dans cette familiarité, on peut se stabiliser. On peut ne plus progresser. On peut même prêcher, on peut même lire la parole, on peut même avoir une vie normale. Mais on peut avoir surtout un relâchement spirituel. Et c'est dans cette famille, il faut se méfier de cette familiarité, de cette monotonie de train-train quotidien. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que la raison pour laquelle j'ai quitté l'église de Fastad, mon ancienne église, c'était parce que je me sentais trop tellement bien. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de défis. J'avais l'impression que, voilà, c'est comme si, comment on s'appelle ça? C'est un petit animal qui, un hamster qui roule, enfin qui, voilà, enfin vous avez compris, hein. Je fais des efforts, mais je ne bouge pas, en fait. C'est dans cette monotonie que nous pouvons, oui, être dans la stagnation spirituelle. Et la stagnation veut dire aussi que c'est le commencement de relâchement, c'est le commencement de la régression spirituelle. Alors que Dieu nous invite vraiment à nous élever, à progresser, à être plus mature spirituellement. Pas juste se contenter de là où je me trouve actuellement. En tout cas, ce sentiment de dessèchement, et en tout cas, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait un électrochoc. Oui, c'est vrai. Je me contentais de mon état actuel. Seigneur, pardonne-moi. Qu'en est-il pour vous? Quel est votre état actuel? Est-ce que vous êtes encore dans cet état de dessèchement des eaux ou tout va bien? En tout cas, ici, on peut en tout cas trouver dans le désert spirituel, lorsque nous sommes dans cette zone de confort, il faut sortir de cette zone de confort. Et puis, on peut, l'inversement, on peut aussi tomber dans ce désert spirituel lorsque tout va mal, effectivement. Comme tout va mal, on abandonne tout, même la foi. Et puis, on se sent perdu, sans avenir. On est désorienté. Notre situation est tellement catastrophique, on ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, oui, on peut se sentir comme ces eaux desséchées. Comme vient de dire aussi tout à l'heure ce matin avec par Guillaume, oui, cette semaine, nous avons vécu une semaine assez difficile avec tous ces tumultes, avec toute cette violence. Nous avons observé de nombreux jeunes qui ont exprimé leur frustration, leur mal-être, à travers des actes de violence. Ils ont détruit les mairies, les voitures. En venant à l'église, j'ai vu maison de finance complètement brûlée, enfin la porte. J'ai entendu des écoles, des médiathèques brûlées. Ce matin encore, dans les infos, j'ai entendu une famille mère qui a été attaquée. Donc c'est dans leur maison, ils sont entrés de force et ils ont voulu brûler, etc. Donc c'est une tentative. Bien d'autres choses encore. C'est quoi cet acte gratuit, violence gratuite? Est-ce qu'ils étaient vraiment en colère en raison du décès tragique de Naël par ce policier? Ou voilà, ils avaient tout simplement la haine contre tous, ils ont tout simplement saisi l'occasion pour exprimer leur colère. Quelle qu'en soit la raison, bien sûr, il est important de souligner que la violence ne résout rien. Imaginez si les Israélites, dans cet état de dessèchement, ils avaient réagi comme ça. Imaginez. Le peuple d'Israël qui se révolte en disant « Les Babyloniens, nous, on n'est pas d'accord avec toi » et donc ils brûlent tout. Je pense qu'ils ont été, ils seraient été exterminés après. Les Israélites ont tout perdu, oui, sous le règne de Nabucodonosor. Ils ont perdu leur terre, leur nation, leurs identités, leur liberté. Ils ont dû tout reconstruire. Ils étaient incapables, en tout cas, d'exprimer leur colère, leur déception, leur frustration. Ils devaient subir, ils devaient subir. Et puis, voilà, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Dans ces moments de détresse que Dieu intervient pour lui dire, pour dire au prophète d'Israël, au verset 2, « Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Donc, il lui montre tout un tas d'ossements desséchés, ils étaient nombreux, et, qui représentent ou qui symbolisent qu'il y avait une grande désolation en Israël. Ensuite, Dieu montre une vision prophétique remplie d'espoir et de restauration pour l'Israël. Il pose cette question au prophète. Je lis au verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Il pose la question, est-ce que vraiment ces os desséchés pourront revivre aux yeux humains, c'est impossible. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel est un homme intelligent, sage, et il fait confiance au Seigneur. Il sait que Dieu a toute la puissance pour recréer les choses, puisque c'est lui-même le Créateur. Et donc, cette réponse, c'est comme si tu le veux, tu peux faire revivre ces ossements desséchés. Même si, pour les hommes, c'est impossible, pour toi, tout est possible. Il avait une grande confiance. Puis Ézéchiel est invité à prophétiser. Au verset 4, il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » C'est une parole très intéressante. Non seulement, voilà, il donne une certaine idée que ces ossements desséchés peuvent revivre, mais il veut utiliser le prophète. Autrement dit, il veut aussi nous utiliser dans son plan. Imaginez, vous êtes Ézéchiel. Vous prononcez la parole de Dieu et vous, devant vos yeux, il y a des choses qui se passent, incroyables. Nous sommes tous, nous pourrions être tous des instruments du Seigneur si nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne voie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes également donc appelés à être des prophètes comme ce Ézéchiel, à annoncer le Seigneur, à être des sentinelles pour nos contemporains. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Même si parfois nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, c'est vrai, mais nous devons être montrer le modèle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu, après, demande à Ézéchiel donc de proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Il ne fait que répéter ce que Dieu avait prononcé et les os se reprennent vie. Et nous voyons la puissance de Dieu au verset 5 et 6 que je vais vous lire. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » et vous saurez que je suis l'Éternel. » Au verset 7, « Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se mit un mouvement et les os s'approchèrent les uns les autres. » Incroyable, un miracle se produit. Les os se bougent, se coordonnent, forment voilà, la forme humaine. Et là, après, il y a la peau, enfin le nerf, et aussi la peau qui se met en place. Un miracle qui se produit. Il a fait que répéter. Et pour répéter la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir ce temps de méditation, ce temps où nous apprenons la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons depuis cette année, depuis le début de cette année, je vous ai vraiment encouragé, exhorté à lire la parole, à lire la parole. Je vous ai même distribué une grille de lecture où nous pouvons lire la Bible tout entière en 3 ans. Ou même, je vous ai aussi exhorté, si vous pouvez lire à travers cette site internet qui, voilà, la Bible en un an. Hein, donc vous pouvez acheter la Bible en un an ou vous pouvez tout simplement suivre par internet. C'est vraiment tout simple. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? C'est simple, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi que l'amour de la parole de Dieu. Oui, il faut entendre pour pouvoir transmettre. Comment nous pouvons transmettre si on n'entend pas? Comment nous pourrions donner quelque chose alors que nous n'avons rien reçu? Nous devons recevoir et aussi transmettre. Et la première chose, c'est de recevoir. Recevoir la parole de Dieu. Je me souviens d'un copain que j'ai connu à la fac de théologie. C'était un Suisse, je ne me rappelle plus son nom. On était quand même proches, mais je me souviens plus son nom. Quand je l'ai vu, il avait terminé Nogent. Après, il est venu à la fac de Vaux-sur-Seine. Donc, en troisième année, on était ensemble en classe. Et donc, il était un Suisse. Il ressemblait un peu au joueur de tennis Wawrinka. Non, vous voyez pas le joueur Wawrinka? Il lui ressemble beaucoup. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Wawrinka, c'est le deuxième joueur, meilleur joueur en Suisse, après Federer, bien sûr. Donc, il lui ressemblait beaucoup. On était assez copains. Et il était déjà marié. Il avait peut-être 6-7 ans plus âgé que moi. Donc, à l'époque, il avait peut-être 38 ans, 39 ans. Et je lui pose la question, c'est quoi ça? Parce qu'il avait plein de tatouages. Il me fait, ah oui, ça c'est mes erreurs de jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait comment tu étais quand tu étais jeune? J'étais cuisinier avant. Il était cuisinier en Suisse, il gagnait bien sa vie. Et puis un jour, il a commencé à toucher l'alcool. Et il est devenu alcoolique. Et ensuite, il a commencé à toucher à la drogue. Et il est devenu un drogué. Et ensuite, il a perdu son travail. Et ensuite, il est vraiment devenu dépendant. Et il a tout perdu. Il est devenu un SDF. Même ses parents l'avaient laissé tomber. Il a vécu dans la rue pendant des années. Et ensuite, il a découvert la parole. Il disait, quand j'ai découvert la parole, que je connaissais déjà avant, mais un jour, cette parole vivifiante a complètement touché mon cœur. Et j'ai été transformé du jour au lendemain. Alors que ma famille a fait tellement d'efforts pour me transformer, ils m'ont même abandonné. Mais le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Et quand cette parole a été reçue dans mon cœur, j'ai été complètement transformé. Et ensuite, je me suis marié et j'ai eu des enfants et j'ai eu l'appel pour servir le Seigneur. C'est pour ça que maintenant, je suis à l'école théologique pour servir le Seigneur. C'était quelqu'un qui est tellement doux, tellement sérieux, hein, dans son travail, comme un Suisse. Hein. Je pense que c'est déjà là que j'ai commencé à apprécier les Suisses. Hein. Et ensuite, quand j'ai rencontré ma femme suissesse, voilà. Enfin, bref. Oui, la parole peut transformer les personnes. J'ai vu vraiment en lui cette transformation. De même, je pense que vous avez aussi vivre la même chose quand vous avez découvert l'Évangile, quand vous avez reçu cette parole tellement vivifiante, restauratrice, vous avez dû voilà, être sous l'onction, sous la grâce de Dieu. Un autre aspect essentiel pour que ces os desséchés revivent, connaissent la restauration, le renouvellement, ben, il fallait aussi l'Esprit de Dieu. Il fallait aussi l'Esprit de Dieu. Au verset 5, je relis. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà, non seulement la parole, mais aussi l'Esprit de Dieu qui agit dans ses os. Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils reviennent, qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Jusqu'ici, verset 10. Oui, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser et de parler à l'Esprit, de lui dire de venir des quatre vents, de souffler sur ses morts pour qu'ils revivent. Et des nerfs, de la chair et de la peau se forment sur eux. Ils se lèvent, forment une armée nombreuse, très nombreuse, mais ils n'avaient pas encore la vie. Et puis, une fois que l'Esprit de Dieu est entré en eux, c'est devenu une puissante armée. Et il y a eu vraiment une restauration complète, la résurrection que Dieu peut accomplir. Oui, je ne sais pas dans votre vie ce qui doit être restauré, renouvelé. Sachons que tout est possible avec le Seigneur, d'après cette parole que nous venons de lire. Cette vision de restauration, de résurrection nous parle également aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la détresse, la violence semblent régner. Parfois, nous pouvons nous sentir comme des ossements desséchés, sans vie et sans espoir, mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans des situations les plus désespérées. On retrouve aussi le verbe dans Genèse 2:7 où on voit l'Éternel Dieu qui forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, houra, et l'homme devint un être vivant. Voilà, dans ce récit de la création, Dieu souffle son esprit et la vie est accordée à Adam. Adam qui veut dire aussi la terre. Hein, donc Adam qui a été fait de poussière de la terre, ben, avec l'Esprit de Dieu. Il y a eu cette création de l'homme. D'ailleurs, il dit aussi, juste avant, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu créateur, ben, il utilise surtout son esprit. Dans la création, Dieu a besoin de son esprit. Dans Romains 1, verset 4, nous voyons aussi, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il y a eu aussi l'intervention de l'Esprit de Dieu. Il est dit, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est l'Esprit de Dieu était nécessaire, important, utile pour la résurrection de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit apporte la vie, l'Esprit apporte un espoir. L'Esprit, nous ne pouvons pas vivre sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas assumer un ministère, que ce soit pastoral, responsabilité dans l'Église ou dans la vie courante, sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas mener à bien une vie de couple sans l'Esprit de Dieu. Vous savez, je suis de temps en temps quelques couples qui ont des difficultés. Et ils ont une certaine détermination. Oui, pasteur, on va faire ça, on va faire ceci, j'ai trouvé un compromis, on a décidé de faire ceci, ceci, cela. Mais c'est super, c'est un très bon projet de faire des compromis. C'est un très bon projet de baisser une certaine attente par rapport à l'autre. Mais si Dieu ne nous accorde pas son esprit, on ne peut pas agir, puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne le vouloir et le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec notre connaissance ou avec l'envie ou la motivation que nous pouvons changer moi et l'autre. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit de Dieu qui doit agir. Effectivement, lorsque l'Esprit de Dieu a été accordé, il y a eu cette résurrection, il y a eu cette vie qui a été accordée dans ces ossements desséchés. Et puis, cette armée nombreuse n'est pas restée immobile, statique. Ils ont agi, ils ont réagi. Après la résurrection des os, ils se tiennent debout et entrent en mouvement. Ces ossements ressuscités ne restent pas immobiles. Lorsque le Saint-Esprit entre en personne, il la fait bouger, il nous dynamise un peu plus, il nous propulse vers l'avant, comme Jésus a fait avec ses disciples. D'ailleurs, dans les Actes, on voit bien comment les disciples ont agi une fois que la Pentecôte est arrivée, une fois que l'Esprit de Dieu a été accordé à ses disciples. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. » Une fois qu'ils ont reçu cet Esprit de Dieu, ils sont devenus des vrais témoins dans le monde. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Ils ne sont pas restés statiques une fois qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont été des gens qui ont agi, qui ont agi. Le Seigneur a ajouté aussi chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés, etc. C'est extraordinaire. Avec l'aide du Seigneur, avec la manifestation du Saint-Esprit, nous voyons les disciples agir. À l'époque d'Ézéchiel, Dieu dit « Je vous installerai sur votre terre, alors vous saurez que je suis l'Éternel, j'ai parlé ». Et j'agis. Le Seigneur qui parle et qui agit aussi. C'est lui qui travaille, qui agit, qui amène les gens à la conversion, qui agit pour que l'Israël revienne sur leur terre. C'est lui qui agit par son esprit pour convaincre nous de pécher et nous ramener à la repentance. C'est ensuite qu'en tout cas nous pouvons, voilà, remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Je vais conclure. Voilà la phrase qui m'avait beaucoup touché, c'est « Ce désert peut venir dans la monotonie du train-train quotidien, où l'on s'habitue à être proche de la vie de l'Église, tout semble familier, on fait toujours la même chose, on arrive même à faire des choses pour le Seigneur, lire la parole, prier, intercéder même, avoir une vie apparemment normale, mais au fond de soi, on peut se sentir relâché, un manque de croissance dans la maturité spirituelle. C'est pour ça que cet ossement desséché, le Seigneur peut transformer. Il faut vraiment davantage se fier au Seigneur pour aller dans la progression, dans la maturité spirituelle. Pas se contenter de cet état statique, la stagnation. Tout comme Ézéchiel a prophétisé sur les os et leur a donné la parole de l'Éternel, nous sommes aussi appelés à proclamer la parole de Dieu dans notre vie et dans le monde auprès de nos contemporains. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de donner la vie là où il y a la mort. La parole de Dieu peut aussi apporter, peut restaurer ce qui est brisé. La parole de Dieu peut même faire revivre ce qui est perdu. Mais il ne suffit pas de proclamer la parole. Nous devons aussi être remplis de l'Esprit de Dieu qui est celui, enfin, celui qui donne la vie, qui transforme, qui nous renouvelle. Vous connaissez la... Et ensuite, mettre en pratique, dans l'action, être dans l'action. Vous connaissez la mère morte. Pourquoi la mère morte? Pourquoi la mère est morte? Parce qu'on fait qu'il fait que cette mort, cette mère ne fait que recevoir de l'eau. Et après, ça s'évapore. Donc, il n'y a que comment on dit ça? Comment? Oui, il y a le sel, oui, qui reste. L'eau reste, devient salée de plus en plus et la vie devient impossible. Parce qu'il n'évacue pas. Il n'évacue pas. Quand on reçoit, il faut évacuer. J'ai un chat et on a installé une fontaine pour qu'il puisse boire dessus. Donc c'est l'eau bouge tout le temps et ça permet en tout cas d'avoir une petite fraîcheur pour notre chat. Hein? Pas que l'eau reste, parce que quand l'eau est comme ça, avant elle buvait pas trop. Elle buvait juste une fois, deux fois, trois fois et puis quand c'est un jour passé, deux jours passés, elle buvait plus dans cette eau. Elle buvait dans les toilettes. Donc on a réfléchi, ah, il faut faire autre chose. Voilà, ouais. Ou, ah oui, dans les robinets aussi. Donc c'est pour ça qu'on a installé ça, pour que voilà, l'eau reste frais à tout le temps. De même, la vie c'est pareil, la vie spirituelle c'est pareil. Non seulement nous devons recevoir, mais aussi nous devons donner, recevoir. Et d'ailleurs, il y a plus de joie à donner que recevoir. C'est ce que le Seigneur nous dit. Non seulement nous devons recevoir de la part du Seigneur, et aussi nous pouvons recevoir de la part des autres, mais nous devons aussi savoir donner aux autres cette grâce spirituelle que nous avons reçue, cet esprit que nous avons reçu, transmettre ce bon message, être un prophète, voilà, du Seigneur, pour proclamer la parole, pour transmettre cette bonne nouvelle aux autres. Et bien sûr, il faut rechercher cet esprit pour être renouvelé, pour revivre. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre une vie de témoin avec ce moteur de propulsion qui est le Saint-Esprit. Le moteur de propulsion, c'est le Saint-Esprit qui nous fait agir. Parce que, en fait, si on n'a pas de motivation, s'il n'y a pas cet Esprit de Dieu, voilà, on a du mal à marcher, on a du mal à agir. Alors, frères et sœurs, n'oublions jamais la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans les moments de détresse et dans les moments de découragement. Rappelons-nous que Dieu peut nous faire revivre ce qui est mort, restaurer ce qui est brisé et nous donner une vision pour avancer. Laissons-nous réanimer par le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, merci pour cette parole d'Ézéchiel chapitre 37 qui nous rappelle combien il est important aussi que ta puissance se manifeste en nous pour que les choses peut-être qui sont en train de périr puissent retrouver la vie, que ces ossements desséchés qui se trouvent dans une partie de notre vie soient renouvelés, restaurés. Par ta grâce, par ta parole, Seigneur. Que vraiment tu interviennes dans la vie de chacun pour nous réanimer. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.